tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vanna Bolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo, ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue, à la pêche à pied, en escalade, pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes choisies dans 10 années de Sur les docks, un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, vivre dans les bois. Et aujourd'hui, Antoine, garde forestier. Un documentaire d'Amaury Chardot réalisé par Gilles Davidas. Il y a des métiers qui font rêver. On imagine des caractères derrière, des univers inconnus, un quotidien qui nous échappe. Ils ont en eux une part de mystère et souvent une part de solitude, une forme d'héroïsme et de rapport à la nature ou aux éléments. On pense aux bûcherons, aux trappeurs, aux marins-pêcheurs, aux navigateurs au long cours, aux forgerons, aux agriculteurs, à ces figures qui sont presque mythologiques. Au Moyen-Âge, les habitants des forêts étaient mal vus. Leur vie à l'écart, leur cohabitation avec les charbonniers et les ermites les laissaient à la marge. Aujourd'hui, les forestiers sont surtout des sylviculteurs. Ils veillent sur les arbres, ils les protègent et les aident à grandir. Et pour certains, leur silence est comme un écho de celui des ermites qui peuplaient la forêt silencieuse. Alors, premier volet, on s'installe parmi les arbres.
Antoine. Antoine ?
Oui, oui. C'est un buceur, hein, c'est un gars qui travaille. Hein. Même encore là, les vieux, mais ils travaillent encore. Il a droit, hein, quand il est au boulot. Il en fait du boulot encore.
Hop !
T'as vu une fois là-bas, l'étang, là-bas, à l'étang de Saint-Maurice, il coupait des branches après des chênes, moi, il en coupait. Hein. Fallait aller vite, hein. C'est sûr que c'est un bon ouvrier, hein. Il fait bien son boulot, il fait ça comme si ça serait pour lui. Il voit un petit chêne ou n'importe quoi qui plaît, il l'arrache, il le replante plus loin. Ça, c'est sûr qu'il n'y en a sûrement pas partout des comme ça.
Antoine, garde forestier. Gilles Davidas, Amaury Chardot.
Celui-là. C'est pas frappant, mais moi je l'entends. Je sens qu'il n'y a plus rien, c'est un bois mort, quoi. Il a plus de vie, là. Le bruit n'est pas le même. Et celui-là, ça doit être pareil. Moins frappant. Et lui, il est mort. Il a encore eu de la sève en bas, mais dans le haut, il n'a plus de sève du tout. On voit l'écorce, elle est en train de se décoller. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, il faut que je le marque. À couper.
Dans la forêt, Antoine, tu te repères beaucoup au bruit aussi ?
Au bruit, la route, parce qu'autrement, les bruits, les oiseaux, ils bougent. Ils ne peuvent pas t'orienter beaucoup. Hein, je m'oriente à la route et puis je te dis beaucoup à certains arbres que j'ai repérés parce qu'ils sont de belle qualité ou qui ont des gros défauts, des choses comme ça. Et en se promenant, on arrive à se les mémoriser, à savoir à peu près leur situation, à 15-20 mètres près.
Mais le silence de la forêt, ça te parle ?
Parler... Ça ne me gêne pas. Je trouve ça reposant. Reposant, même s'il y a du bruit d'oiseaux. Les oiseaux, c'est pas un chant agressif. C'est pas comme la ville où il y a toujours du bruit, ou dans une usine, il y a toujours des bruits de chaises, des bruits de marteaux, des choses comme ça. Là, il y a des bruits en forêt, quand il y a du vent, on entend les arbres bouger ou des choses comme ça. Mais pour moi, ce ne sont pas des bruits agressifs. C'est des bruits qui me sont familiers, qui me détendent à la limite. Ça ne me stresse pas, rien. C'est, même quand il y a des grands vents, c'est le seul risque, c'est de se prendre un arbre ou une branche sur la tête. Mais autrement, ça ne me gênerait pas de rester enfourré par grand vent. Je trouve même ça agréable d'entendre les sifflements dans les cimes des arbres. Et puis de les voir se plier tant qu'ils ne cassent pas, c'est... Le silence, la solitude... Ça fait 25 ans que je suis tout seul, donc on s'y habitue. Hein, c'est... Je ne sais pas comment dire. Il y a des travaux pour lesquels ce serait bien d'être à deux. Déjà pour ne pas s'encourager, parce que quand je fais du dégagement de chaîne, si tu veux, il y a deux façons de le voir. Il y a une dire, je coupe des ronces, hein. Ça fait un peu le gars qui en a marre de son boulot, où tu dis je dégage des chaînes. Je trouve que c'est un peu plus noble, donc ça te remonte le moral, parce que couper des ronces, c'est pas trop épanouissant. Mais de dégager un petit chêne pour qu'il ait un avenir, je trouve ça plus épanouissant, donc il faut le prendre dans ce sens-là. Il y a deux façons de voir les choses. Tu vas au boulot les bras battants, un pendant, ou bien tu vas au boulot en sifflant, et puis si tu vas en sifflant, t'es quand même plus gai, tu vas de meilleur cœur, donc le boulot il se passe mieux. Mais bon, je dis des fois, moins maintenant, parce que je suis habitué, au début, oui, ça pesait un petit peu la solitude. Mais, surtout quand t'as de l'eau, bon, quand il pleut une ou deux journées, c'est rien, mais des fois... J'ai vu travailler dans les bois, puis qu'il pleuvait pendant un mois, presque tous les jours. Le moral, il est un peu moins beau, quoi. Mais on s'y habitue après, hein. Il faut faire le boulot, et puis c'est tout, hein.
Tu penses à quoi toute la journée?
À ce que je fais. Ce que je fais, puis, Là, je suis en train de marquer du taillis, j'observe la cime des arbres, je regarde ce qui va gêner, des choses comme ça. Quand je coupe du bois, je vais couper ma perche de bois que j'ai en route, et puis après je vais regarder si je peux pas en couper une autre pour permettre à un chêne de pousser. J'observe et puis en même temps, il faut réfléchir, il faut pas faire ça trop bêtement, quoi. Hein? On coupe pas pour dire de couper, on coupe en essayant de raisonner ce qu'on fait. On met pas une forêt à nu, on essaye de la cultiver, donc il faut travailler dans cet esprit-là. Et ça demande, sans demander beaucoup de réflexion, ça demande un petit peu d'observation.
Et pour travailler comme garde forestier, tu dirais qu'il faut avoir un esprit un peu solitaire ou une aptitude à la solitude?
Oui, je pense, oui, un petit peu, peut-être. Mais quand je suis au travail, je suis beaucoup seul, mais je rencontre quand même des bûcherons, je rencontre des techniciens, hein, des personnes. Une fois, il y a un gars qui avait vu le tracteur garé le long de la route, un copain, il passait en camion, il a klaxonné, puis comme j'étais pas loin de la route, je travaillais avec une tronçonneuse. Il est venu me rejoindre au bruit de la tronçonneuse, donc je rencontre quand même des personnes. Je suis pas un solitaire. Mais je suis quelquefois une journée entière sans voir personne, ça arrive. Mais ça me pèse pas beaucoup. Puis je rentre, il y a ma femme, il y a... Hein, avant il y avait les enfants, maintenant ils sont grands, donc on les voit moins souvent, mais... C'est pas...
Cela fait 25 ans qu'il arpente les allées désertes et les sous-bois humides. 25 ans à observer en silence la cime des arbres, à mesurer leurs troncs, à repérer leurs maladies, à déterminer la date de leur coupe. Antoine, je le connais depuis longtemps. C'est dans ces forêts de Puisaye que, petit, j'ai découvert la nature et construit mes premières cabanes. Pour moi qui ai grandi en ville, il a toujours incarné le monde rural, un monde où l'on s'exprime peu et où l'on prend son temps. Enfant, je l'observais avec fascination, parler, sans se soucier des mouches qui se posaient sur son visage et ses sourcils épais, imperturbable comme un cheval. Avant qu'il ne prenne sa retraite, j'ai voulu qu'il me parle de sa vie, de son métier et de cette relation muette et étrange qu'il entretient avec la forêt.
Ça, c'est le plan de Montréal, de la propriété, là. Elle est traversée par la grande route qui va de Saint-Fargeau au Cerf. C'est un axe Orléans, l'est de la France. Hein? Orléans 3. Et les bois sont situés un petit peu de chaque côté, puis ils s'en vont sur le village de Seyfond. On a le bois de la Balourde qui est situé le long de la départementale. Maintenant, avant c'était une nationale, maintenant c'est devenu une départementale. On a le bois des Saint-Maurice, l'étang de Saint-Maurice. On a le bois de la Chartreuse qui est situé dans un parc clos. Le bois des Grands Baudots, la Grande Pâture. Après, comme bois joli, il y a les Pulins. Le bois des Pulins, où les arbres sont vieux, mais de très belle qualité. Et puis un bois que je suis depuis 7-8 ans, depuis la tempête, c'est le bois Cadet. Hein? C'est un bois dans lequel il y a eu pas mal d'arbres de tomber. On venait de faire une coupe, il y a eu des arbres qui sont retombés après la coupe. Et là-dedans, il y a beaucoup de smithchènes qui sont arrivés, donc je suis ces smithchènes. Pour essayer que les ronces et puis l'autre végétation, les végétations qui concurrencent les chênes, elles ne les dépassent pas. Il y a les allées Bernard, Philippe, Gérard, Marguerite, l'allée Toussaint, l'allée du Ferrier, l'allée de la Picardière, l'ayon de la Bécasse, l'ayon de la Pièce d'eau.
La tempête, Antoine, ça a fait beaucoup de dégâts sur...
Sur la surface de la propriété, pas tellement, mais dans... Il y a eu surtout un couloir qui est arrivé nord-ouest, un petit peu sud-est, et qui a fait... Sur ce passage-là, il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a à peu près 1000 chênes qui sont tombés sur la surface.
1000 chênes en une nuit qui sont tombés.
Oui, un bois là, de 9 hectares, on a eu 170 chênes qui ont été déracinés ou cassés. Hein, dedans, des gros, des moyens, des petits, mais bon, c'est toujours l'avenir qui est en jeu, quoi.
Vous étiez là, vous, à ce moment-là ?
Oui.
Le lendemain, j'imagine que ça a dû être...
Ça faisait un petit peu sinistre, surtout qu'on était isolés, on ne pouvait plus circuler. Donc on a attendu que le vent il se calme, et puis après on a pris les tronçonneuses, et puis notre courage, et on s'y est mis. On s'attache au bois, et on n'aime pas beaucoup, hein. S'il y avait eu quelques arbres, c'est rien, mais quand il y a des grandes surfaces comme ça, puis il y avait des arbres de décor un petit peu dans le parc, parce qu'auparavant il y avait un château dans le parc, ou une grosse maison bourgeoise, on appelait ça un château, et il y avait des arbres d'ornement qui superbes, qui ont été cassés, broyés par la tempête, quoi. Donc ça fait un petit peu mal au cœur.
Là, toi, habituellement,
déjeune tout seul toute la semaine?
Ben, pas le mercredi, la Française, elle travaille pas. Puis le samedi et le dimanche. On mange à deux. Ben bon, c'est une question d'habitude. Après, puis on se boit le soir, hein. Je suis pas tout le temps tout seul.
Qu'elle nous a préparé.
Et donc, quand tu déjeunes tout seul, Marie-Françoise te prépare un truc pour le déjeuner?
Bah, ça dépend, oui. Ou des fois, elle m'amène, je sais pas moi, une escalope de volaille ou un beefsteak, ça je le cuis moi-même. Et après, je me cuis des légumes, souvent je les cuis moi-même, quand c'est pas des trucs qui demandent trop longtemps. Que moi, il faut pas que ça traîne à table, tu sais.
Vas-y.
Vas-y, passe. J'aime bien quand manger pas vite, j'aime bien discuter aussi, mais tout seul, si tu veux, t'as pas... Attends, on va mettre ça là. On a démarqué ce qu'il y avait à faire. Allez, c'est bon, bah, tout est prêt. On a même fait cuire les légumes. On va mettre le fait tout là.
Là, je pose où? Là, l'eau, ça.
Voilà. Allez, ben, on est gâtés. Et la vinaigrette. Bien d'avoir une femme qui peut partout. Hein.
Je peux faire quelque chose, Antoine?
Non. Ça va aller, on va y arriver. Les bruits de cuisine là. C'est pas Pink Floyd qui ont un disque où on entend des bruits dans une cuisine. Mince. Il n'est pas droit le bonhomme, il en met à côté.
Tu t'arrêtes toujours un peu à la même heure?
Ça m'arrive de rentrer à midi moins le quart parce que ben j'ai fini, puis je vais pas aller entreprendre quelque chose où il va me falloir un quart d'heure pour me déplacer, puis le temps de me mettre en route. J'aime mieux redémarrer un quart d'heure plus tôt. Hein? Tout seul, quand tu es nombreux à travailler, c'est pas pareil parce que tu es obligé, des fois tu es tributaire des autres, donc tu es toujours obligé d'avoir des horaires à peu près précis. Mais tout seul, il n'y a pas. Il n'y a pas de contraintes. Mais souvent, c'est midi et demi, une heure un quart, je suis à la maison. Et puis l'été, ben, des fois, je démarre beaucoup plus tôt le matin. Je sais pas si ça, c'est assaisonné. Ben, si vous voulez de la vinaigrette, vous en remettrez. On passe la table. Vous voulez venir? Vous avez écouté Philippe Bertrand?
Non.
Vous avez écouté?
Ouais.
C'est là.
C'est bon, de pèlerinage de l'année, c'est vrai que émission. Celui du 15 août...
C'est un carnet de campagne. C'est-à-dire qu'ils sont dans une région, puis ils interrogent des gens qui font des choses un petit peu... qui sortent de l'ordinaire. Beaucoup dans le milieu associatif. Tout ça. Bon, à midi, oui, j'écoute. Je trouve ça bien parce que ça te donne. L'autre fois, j'entendais un gars qui avait
fait du théâtre avec des handicapés. Ils prennent une pièce et puis après les handicapés avec le gars qui a monté l'association, si tu veux, ils transforment la pièce un petit peu à leur façon de la voir et puis la jouent après dans le public. C'est joli. Au lieu d'exclure des personnes, et ben tu les... Et puis ils s'investissent beaucoup parce qu'eux, ils participent, tu sais, dans le texte, dans la façon de jouer la pièce.
Alors quand on fait ce bilan, Bruno Tauzin, sur Verdelais, on se dit, il y a un patrimoine touristique, naturel, économique, qui est important, donc tout va bien. Pourtant, vous créez une association qui va fabriquer du lien social. Apparemment, il y a 25 ans, ce lien social faisait défaut.
Ce n'est pas forcément défaut, puisque c'est la continuité, la création du CVM, donc de notre association.
Mais ils sont dans une région. Là, apparemment, ils sont vers Pau, je pense, par là. Ils n'ont pas parlé de Lourdes, là, tout à l'heure, je ne sais pas.
À travers cette association, c'était pas ce qu'il y a eu obligation.
Une fois, ils étaient dans la région de Clermont-Ferrand, une fois en Alsace, dans le Nord. Ils voyagent, une fois, ils sont une semaine dans la même région.
Ils ne sont jamais passés par ici.
Non, quoi, ce que je sache.
Il fallait créer une nouvelle structure et après petit à petit le CVLV a pris le relais et a restructuré naturellement toute une série de sections ou d'activités parce que c'est pas parce qu'il y a tous ces atouts dans une commune que ça peut vivre et donc si on
n'est pas la
population, si on ne met pas des choses en
place. Et goûte si c'est assez assaisonné, comment tu remets de
l'assaisonnement. Ou un passé riche peut aussi mourir très vite, notamment dans les campagnes.
Alors le CVLV, c'est le centre de vacances.
Ça va?
Bonjour.
Et pour une heure de son, là. Il fait un imposant comme ça, mais ça va, il est
oui,
sympa.
Oui, bah... Hein? Bonjour.
Bonjour, Max.
Et il voulait, voir les gens que je côtoyais.
Oui, bon, on se côtoie. Oui, c'est vrai.
On se voit quand même.
On se voit deux fois par an, mais... Oui. Mais c'est sincère,
mais
quoi.
Mais bon, hein? On a de l'estime.
Oui,
hein?
Oui, beaucoup.
Tu rentres?
Oui, Nicole.
Ben, elle a une gastro, c'est à la mode.
Oui, oui,
c'est
oui,
de bon.
A...
bon.
Un petit peu.
Donc, voilà, c'est pour Faro.
Et Max était directeur d'école primaire et puis institut en même temps.
Et la grande route, une moto sur la grande route.
On entend d'ici. T'as coupé trop de bois, je crois. Hein?
Ben là, on n'a pas coupé beaucoup, là. Ah non, c'est un avion.
Ah bon, voilà, il a le droit, lui.
Ouais.
Il y avait un garde champêtre dans le coin avant?
Oui, il y en avait, oui, il y en avait dans le village. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'étais pas loin, j'étais à Toussy. Il y avait un garde champêtre qui nous empoisonnait quand on allait chercher les noix à l'époque où on aurait dû les laisser sous le noyer, quoi.
Finalement, aujourd'hui, Antoine, c'est toi le garde champêtre?
Ah, c'est pas pareil, ah, non. Pas bah, non, le garde champêtre, c'est quelqu'un qui annonçait aussi qu'il faisait partie de la commune, il annonçait les nouvelles, des choses comme ça. Moi, je me souviens, étant gamin, tu avais le garde champêtre qui passait avec son vélo, il avait une poire qui avait une sonnerie différente, et puis il criait fort pour qu'il y ait 4-5 personnes autour de où on habitait qui entendent. Puis après, il allait 300 mètres plus loin, puis il annonçait. Moi, je suis garde particulier, si tu veux. Je suis chargé pour faire régner l'ordre sur la propriété. Hein, s'il y a des gens qui braconnent ou s'il y a des gens qui font du saccage, je suis apte à dresser un procès-verbal.
Mais t'as pas une plaque avec la loi?
Normalement, je devrais l'avoir. Tu veux, comme moi, je travaille en même temps que je fais fonction de garde particulier, j'emmène jamais ça sur moi. Autrement, j'ai un certificat de comme quoi j'ai prêté serment au tribunal pour faire respecter la loi sur la propriété. J'ai assermenté pour redresser des procès-verbaux.
Et tu l'as déjà fait?
Non, parce qu'on essaye toujours d'arranger un petit peu. Quand ça pourrait aller loin, ça se pourrait. J'ai déjà porté plainte à la gendarmerie, oui, pour des actions assez graves, oui. Qui était de mon ressort et aussi du ressort de la gendarmerie. Mais après, une fois que c'est dans les mains de la gendarmerie se débrouille.
C'est-à-dire?
Pour des effractions qu'il y a eu ici, ou une fois parce qu'on m'a mis en joue, quoi.
Un jour, quelqu'un t'a mis en joue?
Oui.
parce que j'avais pris leur chien dans les bois qui chassait chez... Puis un gars qui chassait chez nous. Donc quand je me suis approché, puis que j'ai voulu... je voulais pas lui mettre un procès, je voulais seulement lui signaler qu'il avait rien à faire là, qu'il fallait qu'il retourne chez lui. Ben, il y a 4-5 copains qui sont venus, et puis j'ai entendu les déclics du fusil, et on m'a mis en joue, jusqu'à ce que je laisse le gars tranquille, puis que je relâche le chien. Mais bon, ça n'a jamais été loin. Alors à la suite de ça, j'ai porté plainte à la gendarmerie. Comme je connaissais pas les gens, je peux pas signaler, si tu veux.
Il y a un facteur humain, hein, le contact avec Antoine est beaucoup plus facile qu'avec certains autres gardes de la région, avec lequel il n'y a pas de contact, il y a l'affrontement dès le départ, quoi, c'est a priori.
Ah ben oui, oui.
Alors qu'avec Antoine, moi j'ai jamais eu affaire à lui en tant que délinquant, mais je suis absolument persuadé que ça se passe bien, parce que
je le connais.
Il parle d'abord.
Parce que t'as des gars qui ils te voient dans les bois, ben si tu veux, ils te mettent le fusil devant toi, puis ils font voir qu'ils sont forts, il faut que tu sortes. Ils vont pas discuter, ils vont pas t'expliquer pourquoi. Moi, j'essaye de savoir. Je te dis, les gens qui vont venir ramasser des champignons pour en faire un commerce, tu le vois très vite. Oui. Hein, souvent, ils sont en bande, ils ont des grands paniers, des choses comme ça. Ceux-là, je les mets dehors, ils ont rien à faire là, mais pour leur consommation personnelle ou pour en faire des conserves, ils peuvent bien rentrer. Trente-huit mille habitants, tu vois. C'est pas grand, hein. Côté de Paris, puis Sens.
Ouais, Auxerre est plus peuplé que Sens.
Oui, pas beaucoup. C'est quand même pas grand, hein. C'est des toutes petites villes. Côté de Lyon, Marseille, Paris ou même Lille, Amiens, ça reste un département. Je ne sais pas s'ils mettent le total. Alors, préfecture Auxerre, population 345 000 habitants. 451 communes, 40 cantons. On est loin de Paris, hein, en population.
Hop.
Merci. Toi, tu penses que tu pourrais vivre en ville?
Y aller comme ça une fois de temps en temps, mais vivre, je crois que j'aurais du mal. Peut-être en vieillissant, si tu veux. Mais... j'aurais du mal, quoi. J'aime bien me promener dans la campagne. On a un terrien. Et pouvoir aller marcher. En ville, bon, t'as l'architecture, t'as d'autres choses à découvrir, mais y vivre, je pense que si tu y vis, t'as pas le temps. On est allé 3-4 jours à Paris. Comme ça, visiter un petit peu, ben, on a flâné dans Paris. Mais quand tu y vis, tu dois pas avoir beaucoup le temps de flâner.
C'est une question de rythme.
Oui, je pense, oui. À la campagne aussi, on a de l'activité, de toute façon. T'arrêtes pas beaucoup, hein. Mais quand tu vois ici, il faut entretenir les pelouses, il faut... T'arrêtes pas, quoi. Mais la vie, elle est différente. Je pense qu'elle est différente. Et ça, les clés.
Non, mais c'est bien. Allez, que je ferme la porte.
Pour pas perdre la clé, moi je l'accroche à la...
au cou, tu vois.
Déjà, les avions de chasse, ils passent beaucoup sur la puisée, puis il y a des lignes. Paris, Clermont-Ferrand, là. Après, ça s'est bifurqué à partir de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand ou Moulins, je sais pas trop, mais il y a...
Où est-ce que tu es allé plus loin, toi, Antoine?
On a eu la chance d'aller à la Réunion. On avait fêté nos 30 ans de mariage et puis il y avait du monde. On est deux familles nombreuses tous les deux. Et puis ils avaient fait une quête pour nous payer un voyage. On savait pas. Hein. Ce qu'on a fait hier, tu regardes, là on les voit les marteaux. Sur la droite de la cloche, tu vois. C'est un voyage inoubliable hein, pour nous. On reste en France, quand on part en vacances, on balade un peu. Un petit camion qu'on a aménagé comme ça, c'est même pas un camping-car. C'est... On a quoi dormir dedans et puis on a nos affaires, notre vaisselle. Puis on met une petite tente pour manger en dessous quand il fait mauvais.
Vous allez où en règle générale?
On est 3 jours là, 2 jours ailleurs, mais une fois on a fait les gorges de la Sioule, le marais Poitevin, on a fait un petit bout autour de et comment Grand-Vaux là, dans le Jura, les gorges du Hérisson, des trucs comme ça, tu vois, on dit bon bah on fait un coin puis on tourne autour. Comme on emmène notre maison avec nous en se déplaçant.
Fourmis qui bouffent là.
Oui. C'est-à-dire il sèche dans le cœur pour une raison ou pour une autre, parce que les racines meurent ou le terrain lui convient pas bien. Et puis après. Ouais.
C'est bouffé par les fourmis taureaux.
Ah vache. Fourmis taureaux.
Oui. C'est des fourmis qui sont. Ils font 1 cm d'épais, 1 cm de long. C'est tout noir. Vous avez déjà vu des nids de fourmis rouges?
Ouais.
Bon, et ben les fourmis taureaux, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus long. Ouais. C'est un petit peu plus gros, c'est tout. Il y a ça. Et comme ça, pas de cœur. C'est un cœur tout entier. Il bouffe le milieu. Comme c'est le plus tendre, c'est la flotte qui monte là, ici. Et ça, ça reste, ça vit toujours. Vous avez remarqué dans les villes, les platanes, ils sont creux au milieu. Il y a toujours des branches qui font avec des feuilles et tout ça. Et bien, c'est ça. Parce que ça, c'est le vrai platane, ça. C'est le vrai platane. Tu laisses ton pout?
Ouais.
D'accord.
Je te fais confiance quand même.
Ah, ben la confiance elle est mal placée, hein. Je te le dis moi.
Combien de jours ça vous prend de débiter tout ce bois?
Ah tout, heureusement qu'on débite pour tout. Hein. Parce que sans ça, autrement ça pourrait pas aller. Hein. Le patron, son patron serait peut-être pas sur Rux. Son patron serait peut-être pas sur Rux, si on débitait et tout. Non, non, moi je fais ça que par demi-journée, je suis à la retraite, je fais ça pour moi, c'est tout. Hein.
C'est son petit bois de chauffage.
Moi je fais mon bois de chauffage, c'est tout. J'ai pas de patron, moi j'ai fait ce boulot-là à mon compte.
Est-ce que vous avez une chaudière à bois chez vous, c'est ça?
Ah, mais c'est pas une chaudière à bois, j'ai un insert. Et là, pour l'année prochaine, je mets un poêle.
Qu'est-ce que c'est un insert?
Ben, un insert, c'est, vous avez déjà vu une cheminée? Sauf que c'est une cheminée fermée, c'est tout. Hein. Cheminée qui se démonte, qu'on enlève, c'est un tuyau, c'est un poêle. Et on met un tuyau qui est dessus, on a une cheminée, puis hop, c'est parti dedans. Mais bon, on retire la cheminée quand on veut.
T'as encore de l'occupation là, hein?
Oh, ben là, ça dans une heure, c'est fini. Hein. Après, je vais aller voir l'autre là-bas.
Le sol?
Oui.
Demain matin, tu viens?
Non, demain matin, je viens pas.
Ah, bah oui, tu m'as dit que tu n'étais pas là. Oui.
Non, demain matin, je viens pas.
Non, comment je serais venu te le couper là, le bout qui reste?
C'est pourquoi c'est de le couper?
Non, hein. Non, bah parce que t'es là.
Oh, c'est pour... Ben, jeudi matin, si c'est que. Ouais. Si tu veux le couper, jeudi matin.
Bon, ben, on va te laisser bosser.
Oui.
Hein?
Oui.
Marie-Françoise, c'est la femme d'Antoine. Née comme lui en Picardie, elle travaille au collège de Saint-Fargeau, la petite commune voisine. Réservée, elle ne souhaitait pas vraiment que je l'enregistre. Je lui ai dit qu'Antoine serait sûrement heureux de l'entendre. Elle a finalement accepté de me parler en préparant le déjeuner, avant le retour de son mari.
Je ne vais pas être très causante comme Antoine.
Ah, non, mais attends. On est rarement causant quand on lave des pommes de terre.
Exact. Ouais. Je suis pas très en avance, je suis un peu dérangée par le coup de fil. Par la vie, quoi.
Il te parle de son rapport, lui, avec les bois. Il te raconte ce qu'il y fait, Antoine?
Oui, je sais toujours. Oui. L'occupation pour laquelle il est parti. Et puis le lieu en plus. Il me dit toujours où est-ce qu'il part, ce qu'il va faire. Oui, je sais assez de façon assez précise ce qu'il fait. Il m'explique facilement. Et puis, bon, moi j'aime bien aussi savoir.
Il est fier de ses arbres, Antoine?
Oui, je pense. Oui, il est fier de montrer, par exemple, quand il fait du dégagement de chaîne. Bon, ça nous arrive quand on a de la famille, on va le retrouver. Bon, ben, il explique, si tu veux, il montre où sont les petits chênes qu'il a dégagés, à qui il a donné, une chance d'arriver à grandir, quoi, quelque part. Et puis, je pense que les arbres, il les sent, il les... Tu vois, il arrive à trouver des petits chênes qui n'ont pas de feuilles, qui font 10 cm, qui sont couverts de ronces. Alors, l'autre jour, on lui disait, mais comment tu fais? Il nous répond, je les sens. Il sait qu'il va trouver un petit chêne à cet endroit-là, tu vois. Je sais pas comment il fait. Mais c'est parce qu'il aime beaucoup ça. T'as dû le ressentir, je pense.
Le matin, on entend mieux, non?
Ah ben, on entend bien. Regarde, là, les voitures, elles sont loin, on les entend, là. Quand elles vont passer là, on va moins entendre.
T'aimes bien les ambiances de brume comme ça, toi ?
Oh, ça me gêne pas. Pas une journée complète, mais souvent c'est signe de beau temps.
Et on voit bien qu'il y a déjà un brouillard qui est tombé vers 6h30 par là, tout doux. Puis là, il va se lever. Il fait déjà plus clair que ce matin, hein, parce que vers 7h30, on voyait plus la maison de chez M. Georgie et de chez nous. Et là, on la revoit. Puis on voit le soleil. Ce matin, j'ai vu la lune, le dernier quartier de la lune, et puis ben après, c'est tout doucement, on ne voyait plus rien.
Et là, on voit une sorte de soleil blanc, en fait. C'est une sorte de lune de... en plein jour.
On entend le petit verre. Pas ça, hein. Il y a un petit verre qui frappe ça, mais... Le bruit de la scie, c'est pour couper les branches qui touchent les troncs des arbres. Ça les frotte et puis après ça les abîme.
On le voit, la tête, elle est presque morte complètement. Il ne reste qu'une petite branche avec des brindilles. Donc c'est les larves, ils souffrent. Après on essaye de chercher pourquoi, puis ben... Des fois c'est parce qu'il est abîmé, des fois c'est parce qu'il est sous le couvert d'un plus haut que lui. Quelquefois c'est parce qu'il est piqué par des insectes.
Qu'est-ce que tu penses que ça va lui faire, sa retraite, Marie-Françoise ? Comment est-ce qu'il l'aborde, sa retraite ?
Ben, je crois qu'il se pose pas beaucoup de questions pour le moment. Il a l'impression qu'il va y avoir... il y aura pas de coupure, si tu veux. Il y aura pas une vraie coupure comme quelqu'un qui va travailler en entreprise et qui arrête vraiment son métier. Lui, je pense que dans sa tête, il se dit qu'il va continuer à... Enfin, il espère qu'il va pouvoir encore continuer à avoir des contacts... avec son travail, quoi.
Il va continuer à aller dans les bois.
Il va continuer à aller dans les bois, moi je suis sûre, oui, oui. Oui, il va continuer à aller voir les bûcherons, continuer à avoir des contacts avec les gens qui vont venir travailler ici. Ou... Enfin, il espère toujours qu'il n'y aura pas une coupure nette, quoi. Je pense qu'il n'en sera pas capable de dire... C'est fini, j'arrête tout, je vais plus dans les bois, quoi. Même s'il va pas forcément travailler, mais continuer à avoir des contacts avec des... Avec les bûcherons qui viennent faire le bois de chauffage avec, tu vois.
Les enfants, gens, eux, ils ont fait un autre choix de vie. Ils sont partis vivre dans des villes.
C'est-à-dire qu'ils ont, ils avaient capacité. Ils travaillaient pas mal à l'école, donc ils sont orientés sur des filières longues. Et puis, comme il n'y a rien, pas de, à part le collège qui veut. Hein, qui est proche. Après le lycée, il fallait aller, au départ, il fallait sur Auxerre, qui est à 40 km. Après, le dernier, il est allé à Toussy, parce qu'il y a un lycée qui s'est ouvert à Toussy. C'était à 15 km. Puis après le lycée, ben, comme ça marchait bien, ils ont continué. Ils sont partis en faculté, où ils ont fait une école. Il y en a un qui a fait une école de kiné, une autre, une école de... Comment ? Pas d'assistante sociale, mais d'éducatrice spécialisée. Bon, ben ça, il n'y a pas dans le coin. Ils partent et puis après, ben, ils sont partis. Ils font leur vie où ils vont à l'école. Et puis, voilà. Hein, on les voit de temps en temps, mais ils ne sont plus auprès de nous.
Le cadet des enfants, Samuel, a choisi de rester en contact avec le monde de la forêt. Des forêts dont il analyse le sous-sol pour le compte de l'INRA, à Dijon. De passage à Paris, je le retrouve dans un café de la gare de Lyon.
Le TGV numéro 9268, en provenance de Lausanne, va entrer en gare 3, 4.
Je le retrouvais souvent en train de l'école, en fait. Généralement... Parce que le retour de l'école se faisait par, comme ça se fait à la campagne, c'est ramassage scolaire avec un car. Et donc, la maison étant enfermée dans un parc, en fait, on me déposait à l'entrée du parc, parce que le car ne rentrait pas dans le parc. Donc j'avais toujours le parc à traverser, à pied ou en vélo, selon mon humeur, en fait. Et je faisais souvent un crochet par où travaillait mon père, parce que je savais toujours où il était, en fait. Et, généralement, je finissais de travailler avec lui, et puis je rentrais avec lui, quoi. Mais ouais, ça reste plus des du partage sans forcément parler, en fait. C'est du partage de faits et de gestes, en fait. Et d'instants, on va dire, mais pas... On parlait pas forcément, en fait. On passait un moment ensemble, en fait, c'est tout. Je dirais.
Tu dirais, Samuel, que ton père, c'est un solitaire ?
Non, il aime il aime les gens, non, mais il aime le contact et pour preuve, son métier a un peu évolué et il en a de plus en plus. Donc il aime les gens, mais il a ce besoin aussi d'être tout seul et de... Je pense que pour travailler, il préfère être tout seul. On n'en a jamais vraiment discuté, mais de l'extérieur, je dirais ça, en fait, par contre. Parce que comme il a un monde du travail bien fait, il sait ce qu'il fait, tout dépend de lui, donc il le fait comme il l'entend et je pense que ça lui convient bien. Mais c'est pas un solitaire, son métier le fait qu'il est solitaire, mais c'est pas un solitaire, mais il a besoin d'être seul, je pense, à des moments. Ouais. Je pense qu'il a besoin de s'isoler. Et de...
Travailler comme ça toute la journée dans un univers qui est relativement silencieux, c'est... ça demande quand même une aptitude à... au calme, au silence, à une forme d'introspection peut-être.
Ouais. Non mais moi ça me paraît surprenant aussi. Hein. Ça me paraît surprenant, hein, toute la journée tout seul. Ouais, c'est... je sais pas ce qu'il fait, je lui ai jamais posé la question en fait, hein, ça va. S'il réfléchissait, si... je sais pas. J'ai jamais posé la question. Puis comme il est très discret par nature, c'est pas lui qui m'aurait dit, donc voilà, faudrait que je lui pose la question, justement.
C'est quelque chose que tu trouves mystérieux ?
Moi, ça me paraît assez abstrait, oui. Moi, j'ai besoin de vie, de contact, donc c'est vrai que ça me paraît assez mystérieux. Qu'est-ce qui peut... À quoi on peut bien penser toute la journée?
Observer les arbres, essayer de voir ce que je peux amener pour leur rendre service ou pour leur rendre service pour les aider dans leur croissance. Pensez aux gamins, aux enfants, quoi, ou tu penses à un événement qui s'est passé, ou des fois tu as une chanson dans la tête, des choses comme ça, ou quelque chose que tu as entendu le matin, puis qui te revient. Mais bon, si tu veux, quand je suis dans le travail, il y a ces petits moments de... pas de liberté qui... Je te dis que je pense pas au travail, mais autrement, j'essaye toujours de regarder ce que je vais pouvoir faire pour que la forêt ne perde pas de valeur. Et puis, en train de voir, il y en a encore un qui meurt là-bas de chêne, tu vois. Il se replaint.
Qu'est-ce que de travailler comme ça dans une forêt ou au contact de la nature? Ça t'a appris dans la vie, dans tes rapports avec les gens?
Être, je pense, plus patient, parce qu'on s'aperçoit qu'une forêt, c'est quelque chose qui pousse pas du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut de l'observation, il faut de la patience, il faut essayer d'amener une petite touche humaine pour... travail pour corriger la forme d'un arbre, d'un jeune arbre ou des choses comme ça. Donc, et puis, peut-être aussi à écouter plus les autres parler. J'aime bien parler de mon boulot, mais j'aime bien aussi savoir ce que les autres font. Échanger. Mais bon, est-ce que ce sont les bois? Est-ce que c'est ma nature? C'est difficile à voir. Parce que c'est toujours lié, si tu veux, le... Bah, comment dire? On a, au fond de soi, une façon de vivre. Elle peut être modifiée par l'environnement, par le travail. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer, même si au fond de soi, on a quelque chose... qui va te pousser, je sais pas moi, être mécanicien ou bûcheron ou laveur de carreaux, peu importe, on a ça au fond de soi, mais quand on exerce sa profession, on peut modifier la vision de son travail par le contact des autres, par l'exercice de son boulot aussi. Je vois plus la forêt tout à fait comme je la voyais au début que je suis arrivé ici. Parce que, bon, en 25 ans, je dis pas qu'on fait corps avec elle, c'est pas le mot. Mais bon, on arrive à mieux la sentir. On l'observe différemment, puis on voit des arbres qui ont changé, des petits chênes qu'on a soignés au départ, qui aujourd'hui font 8-10 mètres de haut, donc... on voit quelque chose, on voit le fruit de son travail. Et puis, ça encourage à aller plus loin. Donc, j'avais dit que je passais là.
Antoine, garde forestier. Merci à Marie-Françoise, Samuel, Max et René. Antoine, merci pour ton amitié et ta confiance. Prise de son Alexandre James, mixage Jean-Michel Bernot. Réalisation Gilles Davidas. Un documentaire d'Amaury Chardot.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcast pour les sous-bois, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, deuxième épisode, Ma forêt landaise.